Alors, peut-être le poison est dans la richesse du thème, mais j'espère que je pourrai être suffisamment succincte et vous conduire dans ce thème. C'est vrai que je vais essayer de vous apporter un paquet qui tient la route parce que je ne serai pas là dimanche prochain, donc vous prendrez ce que vous pourrez. C'est un thème qui n'est pas facile. Déjà, si on veut essayer de bien comprendre en quoi la croix de Jésus-Christ est une victoire, ce n'est pas si évident que ça. Et puis en plus, après, si on veut parler de vivre une vie victorieuse, c'est encore pas tout à fait facile. On verra cela. Nous sommes effectivement dans le dimanche des rameaux, et comme cela a été dit, le dimanche des rameaux, Jésus est entré dans Jérusalem, il a été acclamé, reçu comme roi attendu d'Israël. Et pourtant, quelques jours plus tard, ce roi a été rejeté, crucifié et mort sur une croix. Donc les cris de victoire, oui, mais ce n'est pas toujours évident que les cris de victoire soient des cris appropriés. Et encore, qu'est-ce que c'est que la victoire? Alors, j'aimerais commencer avec une mise en garde. Avec une citation qui m'accompagne par rapport à ce thème de la victoire. Je vais vous lire cette citation qui vient d'un théologien britannique qui est décédé il y a quelques années. Il a écrit cela dans un livre précisément sur la croix. L'Église, même si elle n'a jamais manqué de voix qui allait dans le sens contraire, a acquiescé aux croisades et aux inquisitions, qui renient les valeurs mêmes pour lesquelles Jésus est mort, menant ainsi les batailles de Dieu d'une manière que le mode de victoire de Dieu interdit. Un peu compliqué, vous comprenez les croisades, etc. On ne va pas entrer dans ce domaine-là, mais le point central que dit Colin Gunton dans cette citation, par rapport à l'Église de manière générale, c'est que s'il y a une victoire, cette victoire, il faut qu'elle soit vécue selon les conditions de Dieu, pour que ce soit vraiment la victoire de Dieu. Et ce qui est vrai pour les grands mouvements dans l'histoire, la chrétienté, tout ce que ça implique, est aussi vrai pour la vie personnelle du chrétien. Donc, oui, victoire. Une victoire a été remportée à la croix, mais comment est-ce que nous l'intégrons et comment nous la mettons en pratique? Ce n'est pas si facile que ça. Alors, je vous invite à vivre ce temps de message en deux temps. Une première partie pour essayer d'approfondir en quoi la croix de Jésus est-elle une victoire? Comment cette victoire est-elle réalisée? Et puis, une deuxième partie, c'est une invitation à réfléchir à une vie victorieuse basée sur le fondement de cette victoire du Christ à la croix. J'espère que ça ira. C'est vrai que ça, la première partie en particulier risque d'être un petit peu ardue, mais vous avez l'habitude de réfléchir, de vous accrocher. Donc si jamais à un moment donné vous êtes un peu fatigué, vous dites: attention, non, 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 c'est important, il faut que je croche. Voilà. En résumé, je vais prendre plusieurs textes en Colossiens. En résumé, on peut dire la chose suivante. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui croient et comment ils sont entrés dans la victoire de Dieu. Donc, Colossiens 1, 13 à 14, l'apôtre Paul dit: Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Je vous laisse relire ça tranquillement. En d'autres termes, la victoire du Christ à la croix, lorsque quelqu'un entre dans cette dimension de victoire, la personne change d'allégeance. La personne est comme déplacée d'une sphère d'influence qui est en tout cas en partie ténébreuse, néfaste, est déplacée sous une autre sphère d'influence, sous une autre autorité, sous une autre seigneurie, celle de Jésus-Christ, le ressuscité. C'est un beau résumé de ce que Jésus a fait par quelqu'un qui n'a pas fréquenté Jésus personnellement. Mais si on regarde les évangiles, les évangiles représentent en long et en large, montrent comment Jésus est venu pour apporter la lumière, pour apporter à des personnes la libération de ces ténèbres. Alors, essayons de voir un peu plus en détail comment cela s'est passé, et on reste dans la lettre aux Colossiens. On va écouter ce texte, Colossiens 2, 12 à 15, où Paul affirme les choses suivantes. « Vous avez en effet été enseveli avec Christ par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Voilà un texte dense, rempli de plein de choses dont on pourrait parler, mais le but c'est d'essayer de voir plus en détail comment la croix du Christ libère et apporte la victoire. Et puis Paul, comme il le dit aussi ailleurs, parle d'une part de l'esclavage dans lequel l'être humain se trouve. Il dit au verset 13, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie. Vous étiez morts par vos fautes. » Le mal, le péché auquel nous participons, de manière globale et aussi très concrètement, personnellement, on le dit souvent, est comme quelque chose qui nous garde séparés de Dieu, qui est comme un mur entre nous et Dieu, un obstacle qui n'empêche pas Dieu de nous aimer, mais qui nous empêche d'être connectés au cœur de Dieu, d'être en communion avec Dieu, d'être en relation personnelle avec Dieu. Et pour Paul, cette situation prisonnier de ce mal, du péché, c'est effectivement quelque chose que Dieu est venu résoudre à la croix. Il est question ici de pardon. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. L'Écriture nous présente le mal que nous avons commis, auquel nous sommes associés, comme une sorte d'ensemble qui sont ici, dans cette image, comme récoltés dans un recueil, une sorte d'acte d'accusation, une reconnaissance de dette qui nous rend responsables, coupables devant Dieu. On n'a pas beaucoup parlé de culpabilité, hein, ce n'est pas très, très à la mode. Mais bon, il y a quand même une responsabilité, une culpabilité à cause de cela. On peut aussi parler de honte. La honte est aussi une réalité qui nous met mal à l'aise, qui nous sépare de Dieu. Et dans ce sens-là, d'après la parole, effectivement, le péché, notre péché nous accuse devant Dieu. Et parce que Dieu prend cette réalité au sérieux et veut nous en libérer, il a fait quelque chose. Il a agi. Et on peut voir la résolution que Dieu apporte à cette problématique du péché comme un acte, un drame en deux actes, dont le premier acte est effectivement la croix de Jésus-Christ. Alors, d'après la parole, le diable, Satan, dont l'existence est clairement affirmée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, même si la Bible ne lui donne pas trop de place. Mais d'après la perspective biblique, Satan, le diable, est un personnage réel. Et il a quelque chose à faire par rapport au mal dans lequel nous nous trouvons. Alors il est d'une part le chef des ténèbres, de toutes les ténèbres qui existent dans l'univers, ténèbres dans le sens spirituel, moral. À quelque part, lui, il se nourrit de cela, il essaye d'engendrer cela. Alors, il y a toutes sortes d'influences qui nous poussent vers le mal, beaucoup, un peu, mais c'est quand même toujours là. Et notre cœur, il est sensible à cela, il est susceptible à donner, à entrer dans les chemins du mal. Et puis la parole nous dit que Satan, le diable, il a un pouvoir d'accusateur contre nous. Satan peut nous accuser devant Dieu et ainsi nous mettre en péril devant Dieu, parce que Dieu est, tout en étant amour, hein, comme Éric l'a introduit, est aussi le souverain juge. Et nous tous, moi le premier, nous allons comparaître un jour devant Dieu et devoir répondre de nos actes. C'est une affirmation biblique, j'en suis heureux, non pas que je me réjouis de ce moment, mais je suis heureux que Dieu, un jour, demandera compte à tous, à chacun, pour tout le mal qui aura été fait. Alors, par rapport au mal que nous avons fait, la croix du Christ vient répondre à cette accusation de Satan. Nos péchés, c'est comme une sorte de levier qui est offert à Satan, que nous offrons à Satan, sur lequel il peut appuyer pour nous accuser devant Dieu. La lettre aux Hébreux parle de ce pouvoir d'accusation du diable et de la manière dont Dieu, en Jésus-Christ, a désamorcé cette accusation, a permis que ce pouvoir d'accusation soit enlevé au diable. C'est dans Hébreux 2, 14 à 15, que l'auteur dit la chose suivante au sujet de ce que Jésus-Christ a fait. Ainsi, par sa mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Ouh là là, ça aussi c'est un texte assez complexe. Je vous embête un peu ce matin, hein, avec tout cela. Mais essayez de vous accrocher, ça vaut la peine. Voilà ce que nous dit l'auteur aux Hébreux. Jésus, par sa mort, parce qu'il est mort à la croix pour nous, comme le dit l'Écriture, il a enlevé ce pouvoir de la mort du diable. Ce pouvoir de la mort, c'est-à-dire le pouvoir d'accusation contre ceux qui sont sous le pouvoir du péché. Pouvoir d'accusation du diable qui, d'ailleurs, se manifeste, et ça c'est assez complexe, dans cette intuition qu'ont tous les êtres humains, plus ou moins consciemment, que le mal, déjà que la mort qui met fin à cette vie ne devrait pas être, qu'on n'est pas vraiment fait pour mourir. Et puis aussi que le mal qui nous habite à quelque part nous met mal à l'aise. On peut parler justement de culpabilité, on peut parler de honte aussi. Alors, souvent des choses un peu inconscientes comme ça, ou un peu gluantes. Hein. Mais voilà, la parole dit, mais oui, ça c'est une réalité qui nous garde captifs, qui nous empêche de vivre librement. Et Jésus, par sa mort, a enlevé à l'ennemi ce pouvoir d'accusation. Ça va, vous me suivez? Merci. Ceux qui ne suivent pas, vous viendrez après. On en parlera tranquillement. Alors, c'est assez important d'être relativement clair, hein, là-dessus. Donc, en résumé, le pouvoir d'accusation du diable est brisé. Il est brisé par ce que Jésus a fait à la croix, et Colossiens utilise justement cette image d'un acte d'accusation contre nous qui, comme avec le Christ, est cloué à la croix. C'est comme si à la croix, Dieu en fait enlevait de dessus nous ce pouvoir d'accusation du diable. Et puis, ce que j'appelle un recueil funèbre de nos péchés, on n'est pas très fiers de cela, il est cloué à la croix, nous en sommes libérés, nous recevons le pardon de Dieu pour tous nos péchés. Ça, c'est le premier acte. Et bien sûr, ceci est confirmé par le deuxième acte, la résurrection du Christ, par laquelle Dieu donne le sceau de la vie éternelle face à cette mort lancinante qui nous poursuit. Et ça, c'est donc le deuxième acte de ce drame de libération, un drame qui finit bien pour ceux qui se confient en Dieu, accueillent cette libération par Dieu. Et c'est ce qu'affirme la parole, l'ennemi n'a plus d'emprise sur nous si nous restons dans cette libération, dans cette liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et tout cela, ben, on se l'approprie par le baptême d'eau, on le confirme par le baptême d'eau. Donc si jamais vous n'êtes pas baptisé, et vous ne voyez pas très clair, essayez de voir clair. Clarifiez votre situation devant Dieu, faites-vous baptiser, et puis vous avez un moment, pas magique, mais un moment de référence fondamentale pour affirmer que vous êtes libéré du pouvoir de l'ennemi. Bon, alors c'est ce que vous attendiez, mais avec tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Alors je vais prendre encore quelques minutes pour aborder 5 principes... Cinq principes pour développer, vivre, réaliser une vie libre, la plus libre possible. On est toujours en chemin. Hein. Premier point, c'est, on pourrait dire ça presque avec chaque message qu'on entend, par la mise en pratique. Premier principe, poursuivre avec ténacité l'amour de Dieu et le partager. Et de nouveau, je rejoins Eric, hein, tu as bien fait d'introduire avec l'amour de Dieu. Ça reste quand même le point numéro un, hein, on n'y échappe pas, heureusement. Poursuivre avec ténacité l'amour de Dieu. C'est vrai que l'ennemi a un rôle. C'est vrai que nous sommes tous appelés, invités à ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est intéressant, dans le texte le plus complet, pas si long que ça, mais le plus long, sur le combat spirituel, Éphésiens 6, c'est intéressant, peut-être vous vous souvenez comment Paul commence ce texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Alors pour combat spirituel, Paul ne dit pas, ni les autres auteurs, alors maintenant on va attaquer le règne de l'ennemi, on va dépouiller Satan, on va vider tout ça. Alors oui, ça devient une réalité. Mais le point premier pour notre vie victorieuse, c'est de se placer en Dieu, de chaque jour se réveiller dans cette certitude que Dieu nous aime, qu'on peut marcher, vivre notre journée dans l'amour de Dieu, dans l'attachement à notre Père céleste par Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point pour le fondement d'une vie victorieuse, et c'est un point qui est juste magnifique. C'est à cela qu'il faut nous atteler avant tout. Puis après, il y a d'autres points, parce que c'est vrai que ce Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu saint, et s'il a choisi de nous libérer en Jésus-Christ, de donner son Fils pour nous libérer, bah, c'est qu'il y en avait bien besoin. Et ça c'est le deuxième point, c'est vrai que nous avons encore besoin du pardon en cours de route. D'où, deuxième principe, collaborer activement avec le Saint-Esprit, et j'ajoute les uns avec les autres, pour grandir dans l'intégration de la victoire dans nos vies. Et ceci, c'est vrai, en particulier par rapport au mal qui se trouve encore sur notre route, qui se trouve des fois encore dans notre cœur, et nous restons peut-être d'une manière, jusqu'à la fin de notre vie, c'est même certain, toujours un peu en combat aussi avec nous-mêmes, contre cette capacité de faire le mal. Et je vous propose un texte, qui est encore une fois un texte un peu compliqué, mais qui est magnifique, où Paul met en garde. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, ça veut dire ce qu'on appelle aussi l'homme ancien qui reste toujours présent, cette capacité, l'homme qui a la capacité de pécher, si vous vivez en vous conformant à cela, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, les anciennes manières d'agir, que ce soit dans le mensonge, que ce soit dans l'égocentrisme, etc., alors vous vivrez, si vous faites mourir ces manières. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mettre à mort le vieil homme, la vieille femme, si vous préférez, c'est un travail continuel, main dans la main avec l'esprit. Nous restons attentifs dans notre vie à l'emprise du mal qui peut revenir. Et c'est le deuxième point de notre vie de consécration. Quand nous tombons, ce qui peut arriver, on peut tomber, surtout si on court la course de la foi. Ben, si nous tombons, c'est une bonne idée de se relever tout de suite. Pas rester par terre en train de pleurnicher, de s'apitoyer sur soi, mais de dire « Seigneur, je suis tombé. Ah ben voilà, j'ai de nouveau menti. » C'est pas bon. Pas une bonne idée. « Seigneur, je te demande pardon. Et je m'engage avec ton aide à progresser pour ne plus me faire avoir, entre guillemets. » Ça, c'est le deuxième point. Collaborer activement avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres pour grandir dans l'intégration de la victoire. Et je crois que les uns avec les autres, toute la question de nous encourager, de nous aider, de nous porter dans la prière, dans cela est aussi important. Troisième principe, choisir le chemin de victoire selon Dieu. Ça rappelle la citation du début, il y a des manières de combattre au nom de Dieu qui ne signifie pas qu'on combat vraiment pour Dieu. Il y a des combats qui sont menés au nom de Dieu et qui ne sont pas vraiment les combats de Dieu. Et bien sûr, on peut tout de suite parler de l'islamisme radical, etc., mais je vous rassure, ça arrive aussi à nous autres chrétiens, qu'on combat au nom de Dieu et puis en fait, on est peut-être à côté de la plaque. Et puis, pour illustrer cela, j'aimerais simplement rappeler que Jésus nous invite à un style de vie non violent radical. Ce n'est pas votre pasteur qui me contredira. Et puis ce chemin de non-violence peut être extrêmement exigeant. Et pour moi personnellement, il y a quelques années, ce qui m'a le plus frappé à ce sujet-là, et je le mentionne simplement, je ne vais pas l'approfondir, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, ou quelle que soit notre clé de lecture, il y a ce mystère que l'Église, qu'on trouve tout au long de l'Apocalypse, ne prend jamais les armes. Et dans un des textes les plus horribles de l'Apocalypse, au chapitre 13, il y a cet amas, cette équipe horrible, funeste aussi, la fausse trinité avec l'Antichrist, le dragon, etc., qui attaque le peuple de Dieu. Et il y a ce verset terrible qui dit « Il attaqua le peuple de Dieu et il lui fut donné de vaincre. » Il lui fut donné de vaincre. Je ne sais pas quel est votre schéma d'interprétation de l'Apocalypse, mais ce texte, il est là, il y est. Ça veut dire que peut-être bien à l'avenir, un jour, il y aura un grand affrontement et le peuple de Dieu va être vaincu. Va être vaincu, anéanti. J'en sais rien, j'aimerais pas participer à cela, mais c'est en tout cas une possibilité. Et dans tout cela, jamais le peuple de Dieu n'est appelé à prendre les armes. Alors bien sûr, après, l'auteur de l'Apocalypse dit, mais c'est pour cela qu'il faut avoir du discernement et persévérer. Persévérer jusqu'à la mort. Voilà un exemple Quatrième principe. Donc ça veut dire, j'espère que vous comprenez le point que j'essaie de faire, juste cette non-violence, c'est un appel assez absolu, ce qui n'implique pas qu'on n'a pas besoin d'autorité, etc., qui protège et patati et patata. Donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais voilà, pour nous, pour moi, je suis appelé à une non-violence radicale. Et ça me pose problème, mais j'essaie de m'y atteler. Quatrième principe, ne pas ignorer les stratagèmes de Satan. Parce que c'est vrai que l'ennemi, il est là-dedans aussi. Hein, et puis il s'agit aussi de discerner. Les choses ne sont pas toujours noires et blanches. Il y a des fois des choix pas évidents à faire. Il y a des fois des zones grises. Et nous avons du discernement à avoir. Et l'ennemi est rusé, il essaie de nous faire tomber. Jésus nous a donné, les évangiles nous donnent des exemples redoutables. Il s'agit de résister. Et puis, je mentionne de nouveau simplement un exemple, parce qu'il parle d'une réalité communautaire liée à une situation personnelle. Dans 2 Corinthiens 2, au verset 11, dans ce passage, Paul parle d'une situation de discipline qui a dû être résolue à un moment donné, affrontée dans l'église de Corinthe, dans une communauté chrétienne de l'époque. Une personne qui vivait clairement dans le péché a dû être reprise publiquement, c'est ce qu'on aime comme responsable d'église, c'est parmi les tâches les plus agréables, n'est-ce pas, à faire. Non, mais c'est quelque chose qui nous a été confié. À Corinthe, à un moment donné, on a mis sous discipline une personne qui vivait dans le péché. La communauté le savait. La personne est retournée à Dieu, a demandé pardon, s'est repentie, comme on le dit. C'était encourageant. Et pourtant, Paul dit, attention, maintenant que la personne est revenue, assurez-vous qu'elle soit bien réintégrée dans la communauté, qu'on l'accueille. Oui, parce que alors quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça, on n'aime pas forcément aller se frotter à la personne, peut-être, ça peut nous poser problème, même si c'est pardonné. Et Paul dit, attention, accueillez-le pour ne pas qu'il s'éloigne ou soit éloigné par le diable, parce que, et Paul dit, in texto, car nous n'ignorons pas les stratagèmes de l'ennemi. C'est intéressant. Satan essaye d'isoler, il essaye aussi de diviser. Donc dans ce que nous vivons, dans ce que nous vivons aussi en particulier en tant qu'Église, parce que l'Église c'est quand même une cible de division, il s'agit d'être attentif, de veiller dans ce qui se passe. Tiens, quelle pourrait être la part du diable là-dedans, du diviseur, et comment y résister? Ça va, j'ai encore un dernier point et qui est assez bref, mais très 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 important. C'est de ne pas essayer de vivre la vie victorieuse tout seul. C'est vrai que dans un monde débordé par l'hyper-occupation, en tout cas moi j'y suis, la superficialité et l'individualisme, l'accent profondément communautaire qui caractérise le royaume de Dieu reste à la fois une précieuse promesse et un profond défi. Car, non, Dieu ne me demande pas de me débrouiller tout seul, de remporter la victoire tout seul. Il est, bien sûr, lui-même à mes côtés. C'est le point 1. Et je veux qu'il soit à mes côtés, j'en ai besoin. Mais la parole nous invite aussi à cheminer ensemble, à nous aider ensemble, à combattre ensemble le bon combat. Et ça peut des fois d'ailleurs nous aider à vraiment rester dans le bon combat. Oui, Dieu m'appelle à la communauté. Vous tous qui êtes ici, membres et amis de Villard, vous êtes importants les uns pour les autres. Et vous êtes aussi importants pour tous ceux qui vont vous rejoindre à l'avenir. La vie communautaire, c'est au cœur du projet de Dieu. Et chacun a une part indispensable à y apporter. Même si vous avez l'impression, moi dans cette église, je ne fais pas grand-chose, ou d'autres qui se disent, oh là là, moi je porte quand même beaucoup. Chacun pour sa part est important. Et pour qu'une église et puis les membres d'une église puissent vivre une vie victorieuse, ben, en tout cas, moi, j'ai la profonde conviction que nous avons besoin les uns des autres. Ça va ? Vous avez tenu jusqu'à présent ? Ça, c'est génial. Alors, je vais vous faire participer à la conclusion. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? Non, c'est tout simple. Je vous invite à vous lever. Sauf si vous êtes très fatigué, vous avez très mal au dos, vous pouvez aussi rester assis, parce que c'est aussi possible de faire assis si jamais. Mais je propose que nous proclamions ensemble la conclusion, et puis on insistera en particulier sur le dernier verset. Mais je pense qu'on peut par la foi faire nôtre ces affirmations de l'apôtre Paul, et je vous invite à les dire tranquillement, comme une prière, comme une proclamation de foi, devant Dieu, ensemble. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Merci.